18h. Le journal de 18h. Christelle Yesso.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce journal. Commémoration du 30e anniversaire de décès du président Félix Houphouët-Boigny. Les paysans de Côte d'Ivoire ont rendu hommage à feu le président le samedi 2 décembre à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Environ 25 000 agents des collectivités locales de Côte d'Ivoire souhaitent la réinstauration de l'indemnité des départs à la retraite qui a été supprimée en 2022 à travers un cri de cœur lancé au chef de l'État. Et à l'international, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé d'apporter un soutien financier de 1,9 million de dollars américains, soit plus d'un milliard de francs CFA, à chacun des trois pays membres de cette alliance que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Comment expliquer cette aide? Élément de réponse dans ce journal à travers le décryptage de professeur Jean-Marie Kouakou, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. 7 décembre 1993, 7 décembre 2023, 30 ans aujourd'hui que le président Félix Houphouët-Boigny n'est plus. En prélude à cette commémoration, les paysans de Côte d'Ivoire lui ont rendu hommage, c'était le samedi 2 décembre, à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, une cérémonie marquée par des témoignages et une conférence sur le syndicat agricole africain. Émile Yao.
Félix Houphouët-Boigny, le planteur et paysan, 30 ans après son décès, reste toujours vivace dans la mémoire de ses pères paysans ivoiriens.
Ce que je retiens le plus du président Houphouët-Boigny, c'est qu'il a été un grand syndicaliste.
Houphouët est le catalyseur.
Déjà en 1932, il a crié à Bangourou, on nous a trop volé.
Autre temps fort de la cérémonie, la conférence au public sur le syndicat agricole africain. Occasion pour le professeur Joseph Kobi de rendre hommage à Houphouët-Boigny pour son rôle important au sein de ce syndicat africain tremplin de la lutte pour l'émancipation de la colonie.
Notre axe de réflexion se décline autour de trois parties. Le premier évoque le contexte général de la naissance du syndicat agricole africain de Côte d'Ivoire. Le second fait le point des luttes de ce syndicat. Quant au troisième, il aborde l'intervention des planteurs africains dans l'arène politique.
Pour le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny se serait fait preuve d'injustice, voire de manquement, que de parler d'Houphouët-Boigny sans associer ses pères paysans.
Le président Houphouët lui-même se présentait toujours comme un paysan, comme un planteur. Donc j'ai trouvé qu'à la fin des commémorations que nous avons commencées depuis janvier, il fallait laisser une plage pour les paysans, pour vraiment honorer Félix Houphouët-Boigny, premier paysan de Côte d'Ivoire.
Débuté en janvier dernier, la commémoration du 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny et du cinquantenaire de la Fondation qui porte son nom s'achève ce jeudi 7 décembre 2023. Par une messe d'action de grâce en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Élections locales partielles du 2 décembre. Pour s'assurer du bon déroulement de ces élections, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, avait déployé ses observateurs sur le terrain dans les 10 circonscriptions concernées. Dr Boga Sako-Gervais, le président de la FIDOP, a salué le triomphe de la démocratie. Ses propos dans cet élément.
Mais écoutez, la FIDOP, la Fondation des droits de l'homme et de la vie pacifique, a déployé sur le terrain une quinzaine d'observateurs indépendants des élections. Et les rapports nous sont parvenus et nous avons sorti donc un point global de la situation. Premièrement, il faut saluer les populations. Les populations ont été très disciplinées en respectant d'abord la décision du Conseil d'État. Ce n'était pas évident parce que dans certaines localités, tout s'était bien passé la première fois, mais quand même, l'annulation a été proclamée et les populations se sont soumises à cette décision, de même que les candidats. Le taux de participation dans la plupart de ces localités avoisine les 50%. Ça veut dire que les gens ne se sont pas découragés, mais bien au contraire, elles ont été motivées davantage. Et au regard des résultats, mais c'est la démocratie qui a triomphé. Parce que sur le nombre des candidats, il y a 6 indépendants
Docteur Boga Sako, 6 indépendants sur les 10 circonscriptions électorales, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Ça signifie pour nous que partout dans le monde, la démocratie ne s'appuie pas sur des partis politiques, mais c'est le peuple.
Vous venez d'écouter Dr Boga Sako Gervais, le président de la Fondation internationale pour l'observation de la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP. Et à l'Assemblée nationale, le gouvernement ivoirien veut mettre un terme à l'acquisition frauduleuse de la nationalité ivoirienne à travers des mariages complaisants. C'est tout le sens du projet de loi que les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté à l'unanimité ce mercredi 6 décembre à l'Assemblée nationale. Projet de loi défendu par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, après l'adoption du texte. On l'écoute.
Notre pays, de 2004 à 2013, a engagé une réforme législative de la loi relative à l'acquisition de la nationalité par le mariage. Cette réforme a abouti à l'établissement d'un traitement égal entre l'homme étranger qui épouse une Ivoirienne et la femme étrangère qui épouse un Ivoirien. Malheureusement, cette réforme des dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité par le mariage a conduit donc à la multiplication de la fraude en matière de nationalité sur le mariage par le biais donc des mariages de complaisance. Et donc c'est pour lutter efficacement contre cette fraude que j'ai proposé, au nom du président de la République, un projet de loi modificatif des dispositions du Code de la nationalité. Il s'agit pour l'essentiel de supprimer l'acquisition automatique de plein droit par le mariage de la nationalité ivoirienne par le conjoint étranger. C'est-à-dire que dorénavant, cette nationalité ivoirienne ne pourra être acquise par le conjoint étranger qu'après un délai de 5 années à compter de la célébration du mariage. Le conjoint étranger devra donc souscrire à une déclaration visant à obtenir la nationalité ivoirienne. Et ce délai probatoire de 5 ans est réduit à 3 ans en cas de présence de au moins 2 enfants du couple. Il s'agit donc d'une réforme essentielle. C'est la raison pour laquelle vous avez pu constater l'intérêt des députés pour ces dispositions qui va nous permettre donc de juguler les questions relative à la fraude sur l'acquisition de la nationalité par le mariage.
Vous écoutiez le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé. Et du côté de l'UEMOA, la vulgarisation du droit communautaire UEMOA est au centre d'un séminaire national de formation initié par l'organisation sous-régionale à Abidjan. 3 jours durant, magistrats, avocats, greffiers et acteurs du monde du système judiciaire ivoirien seront sensibilisés et formés à la maîtrise totale de la norme communautaire. L'ouverture de cet atelier a eu lieu le mardi 5 décembre dans la commune du Plateau. Jean-Mélène Bitti y était.
Sur le contenu de cet atelier de la Cour de justice de l'UEMOA, Joséphine Suzanne Eba Touré, chef de délégation.
Le clou des travaux, ce sera le renvoi préjudiciel qui est très très important parce qu'il faut savoir que le juge national est le premier qui doit appliquer la loi communautaire. Au niveau des hautes cours, la saisine de la Cour est obligatoire. Nous aurons 3 jours d'échange avec les magistrats des tribunaux, cours et les hautes juridictions ainsi qu'avec le barreau pour que entre acteurs judiciaires, nous comprenions cette loi que nous devons appliquer dans l'intérêt de l'intégration de nos...
Le président de la Cour de cassation, Yua Kofi, souhaite que les résultats de ces travaux soient bénéfiques aux populations.
Ces gens de séminaires de sensibilisation ont leur importance. Et je leur souhaite de bons travaux afin que le séminaire puisse débuter sur de bons résultats qui puissent être au service de tout le monde.
Sur l'importance de cet atelier pour les acteurs du monde de la justice, l'inspecteur général des services judiciaires, représentant le ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Clofana Daniogo Ngolo.
Nous appartenons à une union. Les règles qui régissent la cour de cette union doivent être connues. Si les règles ne sont pas connues, les décisions rendues ne peuvent pas être comprises. Que ces gens de séminaire sur les règles d'organisation de fonctionnement soient connus des magistrats, des avocats, des greffiers.
Ce séminaire prévu pour 3 jours se soldera par l'adoption du rapport final, d'éventuelles motions et des recommandations.
Vous le disiez en titre, environ 25 000 agents des collectivités locales de Côte d'Ivoire souhaitent la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite qui a été supprimée en 2022 à travers un cri de cœur lancé au chef de l'État. Ils qualifient d'illégale cette décision de la Direction générale de la décentralisation. Là-dessus, écoutons les explications de Alassane Terra, le secrétaire général national du SINAPECOSI, le syndicat national du personnel des collectivités de Côte d'Ivoire.
Nous avons plusieurs préoccupations, mais la préoccupation majeure de l'heure, c'est les indemnités de départ à la retraite ont été supprimées par notre tutelle. Aujourd'hui, nous interpellons le chef de l'État parce que cette suppression a été faite sur une base purement illégale, parce qu'il y a une circulaire du ministre Vagondo qui permet le paiement de cette indemnité. Donc, la suppression a été faite de façon verbale, au mépris de la circulaire. Nous avons fait un recours gracieux vis-à-vis du directeur de la décentralisation. Nous avons fait un recours hiérarchique vis-à-vis du ministre. Il n'y a pas eu de suite. Donc, aujourd'hui, nous interpellons le chef de l'État. C'est le père des collectivités. Pour le demain d'intervenir, le 15 décembre, nous devons faire une déclaration à l'auditorium de la Bourse du Travail pour les agents. Ça, c'est en produit d'une grève qui sera lancée bientôt.
Et si le 15 décembre, vous n'avez pas gain de cause?
L'ultime moyen d'un syndicat, c'est la grève. Si nous n'avons pas gain de cause, on va envisager de faire une grève. Nous voulons faire l'économie d'une grève à notre population. Notre souhait, c'est qu'on ait une relève attentive et que le problème des indemnités pour les agents qui ont travaillé 40 ans, 30 ans pour l'État de Côte d'Ivoire aille à la retraite de la précarité. Nous trouvons que c'est un drame.
Et ça avait été toujours fait. Et brutalement, ça a été arrêté.
L'indemnité est payée depuis 1980. Depuis la communalisation en Côte d'Ivoire, l'indemnité est payée sans problème. Elle a été arrêtée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2022, dernièrement. Et sans base légale. Notre souhait est clair, il faut que ce soit réinstauré, il faut que la circulaire du ministre qui permet de payer soit appliquée intégralement.
C'était Alassane Terra, le secrétaire général national du SINAPICOSI, le syndicat national du personnel des collectivités de Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de la Journée internationale du volontaire 2023, la direction régionale du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique du Haut-Sassandra a organisé une campagne de sensibilisation sur l'importance du bénévolat et du volontariat sous le thème « Et si tout le monde le faisait ?» compte rendu Jean-Noël Kwame.
Le directeur régional du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Beugré Dominique, a invité l'ensemble des participants à s'engager en tant que bénévoles et volontaires au service de leur communauté.
Le volontaire, c'est tout citoyen qui se met au service de sa communauté sur une certaine période. Mais de façon spécifique, si vous êtes jeune, c'est un programme au sein du ministère. Il faudra venir vous enregistrer. Vous allez bénéficier d'une formation et par la suite, vous êtes mis en mission au sein de vos communautés. Au sein des structures.
Plusieurs organisations nationales et internationales ont instruit les jeunes sur l'importance du bénévolat et du volontariat.
La Rondiaï, France Volontaire. Aujourd'hui, le volontariat et le bénévolat sont les mieux indiqués pour permettre d'acquérir de l'expérience parallèlement aux études et l'intégration professionnelle. Tout est développé au niveau du site de France Volontaire pour s'engager, pour être utile à la société et à sa nation.
Hassan Kouna, PUNIT. En étant volontaire des Nations Unies, la première valeur ajoutée, c'est l'expérience personnelle ou professionnel. Vous allez vous bâtir un réseau solide avec lequel vous allez partager des opportunités. C'est la porte d'entrée dans le système des Nations Unies, dans toutes ces agences que vous voyez.
L'ensemble des participants, jeunes et personnes expérimentées, ont été invités à s'engager de façon bénévole et volontaire pour apporter leurs contributions et partager leurs expériences et connaissances au service du développement local, national et international. Jean-Noël Kwame, Dalo Radio de la Paix.
Intéressons-nous à présent à la santé, surtout au cancer. Selon la présidente de la coalition des organisations de lutte contre les cancers, toute maladie du cancer n'est pas une fatalité si elle est vite dépistée, notamment celle de la prostate. Écoutons les propos de Maître Fatou Fadika au cours d'une conférence publique.
Le cancer, c'est d'abord une question d'ignorance. Nous nous rendons compte que le cancer, c'est une maladie qui est bien répandue chez nous et que malheureusement, nous ne constatons pas assez tôt que nous sommes dans une situation de cancer, ce qui fait que les dégâts sont importants. Le cancer de la prostate, c'est une des maladies négligées. On ne sait pas ce que c'est, on n'en parle pas. Nous, coalition d'organisation de lutte contre le cancer, notre travail, c'est de porter la parole de la sensibilisation, de dire à nos populations, il faut se réveiller tôt pour ne pas en mourir. Que le cancer n'est pas une maladie qui conduit forcément à la mort. Nous l'avons fait pour les cancers féminins, principalement le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Nous voyons que la mayonnaise a pris. Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire qu'on a un cancer du sein. Nous avons des témoignages. Ces témoignages, ils disent, voilà, je suis malade, je fais front. Et d'autres cas, j'ai été malade, je suis guéri. Ça permet donc de lever des tabous et d'encourager les gens à aller rechercher leur statut. C'est important parce que c'est de connaître son statut qui permet de guérir. Nous avons donc décidé de faire la même chose pour le cancer de la prostate. Nous ne sommes pas médecins, nous avons besoin de transmettre un message juste et c'est avec l'accompagnement des professionnels de la santé que nous le faisons. Et nous avons voulu cette conférence et non seulement une conférence centrale, mais une conférence ouverte. Donc, nous avons doublé d'un webinaire. Pour nous, c'est très important et c'est notre engagement. Nous allons faire en sorte que le cancer de la prostate soit mieux connu et que tout le monde puisse savoir qu'il faut faire un dépistage précoce pour également se prémunir d'une maladie grave.
C'était Maître Fatou Fadika, présidente de la coalition des organisations de lutte contre les cancers. Et tout à fait autre chose dans ce journal. Le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, lancé le 1er août 2021 à la station piscicole de la Loka à Boaké, était le sujet au menu de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, dénommé Tout savoir sur. Modibo Samake, coordonnateur général du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, est-elle invitée de ce rendez-vous d'échange. Après 2 années d'activité du programme, il nous situe sur le niveau de développement de la chaîne de valeur et surtout sur comment le programme entend relever le défi important de l'importation de produits halieutiques. Mata Touré.
La pisciculture est une branche spécifique de l'aquaculture qui se concentre uniquement sur l'élevage des poissons. Pourquoi l'aquaculture ? La consommation de poissons par habitant en Côte d'Ivoire est estimée à 24,9 kg par an, l'un des taux les plus élevés au monde. Cependant, notre production nationale de produits halieutiques, qui s'élève à plus de 105 000 tonnes, dont 6 300 tonnes issues de l'aquaculture, ne satisfait que 17% des besoins, estimés à près de 650 000 tonnes. Au titre de la mise en œuvre d'un cadre institutionnel favorable au développement de l'aquaculture, le gouvernement a développé des politiques et incitations pour attirer de nouveaux investissements dans ce secteur, susciter la création d'entreprises aquacoles, soutenir l'innovation et créer une plateforme de traçabilité et de certification des produits aquacoles. Au titre de la vulgarisation des acquis, le PSTACI sera promu par l'intermédiaire d'un vaste plan de communication pour sensibiliser les investisseurs et les consommateurs ivoiriens aux enjeux et opportunités de l'aquaculture. Pour se lancer en aquaculture, il faut être formé. Il existe des institutions de formation spécialisées dans l'aquaculture, notamment l'Institut national de formation professionnelle agricole en Côte d'Ivoire, qui offre des formations diplômantes, et d'autres acteurs privés qui offrent des formations qualifiantes.
C'était Modibo Samake, coordonnateur général du programme stratégique de transformation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il était au micro de Mata Touré. Et en ce qui concerne l'actualité hors de nos frontières, aux Seychelles, à la suite de l'explosion dans un entrepôt d'explosifs qui a fait au moins 66 blessés, un état d'urgence avait été prononcé. Depuis ce matin, les choses sont revenues à la normale. À partir de maintenant, le pays n'est plus en état d'urgence, ce qui signifie que les magasins peuvent rouvrir et que la circulation normale du public peut reprendre, à l'exception de la zone industrielle de la Providence où a eu lieu l'explosion, a déclaré le chef de l'État, Wavell Ramkalawan, lors d'une conférence de presse. Lutte contre le terrorisme dans les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé d'apporter un soutien financier de 1,9 million de dollars américains, soit plus d'un milliard de francs CFA, à chacun des 3 pays membres de cette alliance, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'annonce a été faite récemment par le président de la commission de la CEDEAO lors de la présentation de son rapport d'activité au Parlement de l'organisation. Comment expliquer cette aide annoncée de la CEDEAO quand on sait que ses relations avec ces 3 pays ont été souvent tendues? Pour le comprendre, suivons le décryptage de professeur Jean-Marie Kouakou, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a été joint par Soro Adams.
Bon, déjà, je pense que c'est une décision raisonnable, mais c'est surtout une décision réaliste. La CEDEAO a peut-être enfin compris que son positionnement politique, voire militaire, dans le cadre de ces 3 États dits du Sahel qui étaient concernés par les coups d'État. Son positionnement avait été fort polémique car jugé à géométrie variable et pas toujours constant. Donc aujourd'hui, de manière réaliste, il y avait d'abord le risque de division de la communauté. La CEDEAO est une communauté et donc il y avait un grand risque puisque le Mali, le Niger et le Burkina devenaient finalement un groupe dans le groupe. Ils parlaient déjà de créer leur propre union.
L'Alliance des États du Sahel.
Voilà, donc il y avait cette fragilité qui est énorme. d'abord, mais le CEDEAO ne pouvait pas supporter le coût, étant donné qu'elle-même n'est pas très très puissante actuellement. Et d'autre part aussi, les putschistes qui ont fait les coups d'État dans ces pays ont argué le même argument à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils venaient surtout pour lutter contre le djihadisme à leur porte et dans leur maison parfois. Or, la CEDEAO constate aujourd'hui qu'elle-même ne peut pas dire à ses États « faites ceci » dès lors qu'elle n'a pas aidé ses États à lutter contre le djihadisme. Donc elle se remet dans son droit et dans sa légitimité si aujourd'hui elle apporte cette aide. De sorte qu'à partir de là maintenant, elle serait fondée à intervenir dans le débat sur ces questions pour les pays concernés.
Et c'est donc sur ces propos que prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Commémoration du 30e anniversaire de décès du président Félix Houphouët-Boigny, les paysans de Côte d'Ivoire ont rendu hommage à feu le président Houphouët-Boigny le samedi 2 décembre à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Environ 25 000 agents des collectivités locales de Côte d'Ivoire souhaitent la réinstauration de l'indemnité des départs à la retraite qui a été supprimée en 2022 à travers un cri de cœur lancé au chef de l'État. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après ce journal, retrouvez votre magazine Santé pour tous avec Paul-Bénédicte Bolou. Très bonne soirée sur Radio de la Paix.
Santé pour tous.